Erev Tov Lekoulam, Erev Tov, et nous voici donc pour notre dernier cours avant la trêve estivale, la trêve de ce qu'on appelle Ben Azmanim. Après Tisha B'Av, on fera une petite pause de 3 semaines jusqu'à Elul, et ensuite on reviendra de plus belle, avec des forces renouvelées pour continuer notre étude. Donc on est dans le livre de Shemot, on est au chapitre 3, Perek Gimel, verset Yud Gimel, verset 13. Alors, on est en plein dans la discussion entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu au buisson. D'accord ? En fait, on vient de commencer la discussion. Et Moshe pose une question tout de suite. Oui ? Alors, d'après nos sages, elle dure 3 jours. C'est déjà de la bonne discussion. Mais... Bon, évidemment, ça se voit pas dans le texte, mais c'est pas très important pour notre compréhension du texte. Mais il faut comprendre que il va y avoir un jeu de ping-pong entre argument contre argument, parce que Moshe, il veut pas y aller. N'oublions pas que Moshe, ça fait quelques années déjà, 40 ans, qu'il a rejeté l'idéal juif, qu'il avait décidé de créer son propre idéal, son propre peuple, et Dieu le ramène à la réalité en lui disant: j'ai entendu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je ne sais pas que son peuple est en Égypte. Et on avait expliqué la semaine dernière que si, mais c'est pour expliquer à Moshe. Mon peuple, c'est celui qui est en Égypte. Pas ce truc que tu es en train d'essayer de mettre en place à Midian. Donc tu vas y aller. Et tu vas aller sortir de là, tu vas aller parler à Pharaon et guider le peuple juif. Et on avait terminé là-dessus, en disant que, eh bien, aller parler à Pharaon pour lui dévoiler Dieu, pour ça, il faut quelqu'un qui connaît bien la tradition du dévoilement divin. En d'autres termes, ça s'appelle comment, quelqu'un qui connaît bien la tradition prophétique dans le Tanakh ? Non, effectivement, un avis, c'est quelqu'un qui est prophète, qui a le dévoilement. Mais comment ça s'appelle quelqu'un qui est un spécialiste du dévoilement, de la prophétie ? Dans le Tanakh, ça s'appelle un hébreu. Un hébreu. Hébreu. Ivri. Pourquoi un hébreu ? Je vais te répondre. La réponse, elle est très simple. Le premier... J'essaie de comprendre ce qui se dit, mais c'est compliqué. Bekitsour, quand on regarde le livre de Bereshit, eh bien on se rendra compte que qui est le père de toute la tradition prophétique, eh bien le père de la tradition prophétique s'appelle Ever. Je ne parle pas ici du Midrash, je parle de ce qui va être après le déluge. Je parle de ce qui va être après le déluge, celui qui va lancer la tradition prophétique. Je m'explique. Bien sûr que Adam, il parlait avec Dieu, pas de problème. Et bien sûr que Noach aussi, il parlait avec Dieu. Aval, après le déluge, il va y avoir un personnage qui va nous être présenté dans le Tanakh comme étant celui qui s'occupe de cette tradition-là. Ce monsieur, il s'appelle Ever. Et Ever, d'où je sais qu'il a cette tradition prophétique? Parce qu'il appelle son fils... Peleg. Ron, Lama, dit la Torah, qui beyamav niflega à Aretz. Car dans la vie, dans la génération de Peleg, il va y avoir la tour de Babel. Mais sauf que comment Ever peut savoir que dans la vie de Peleg, il y aura la tour de Babel qui va créer le Pilug ? Eh bien, Rachid nous dit, de là tu apprends que Ouaya Navi. Ok, et en quoi ça fait de lui le chef de toute la transmission de la tradition prophétique ? Eh bien, tout simplement parce que lorsque on nous parle des différentes dynasties qui vont suivre Noach, et qu'on nous parle de Shem, on nous dit qu'il est Avi Kol Bene Ever. C'est-à-dire que le vrai patron de la famille, c'est Ever, l'hébreu. Abraham est un descendant de cette famille. C'est la raison pour laquelle, au niveau du sens strict et littéral du texte, Avraham est un ivri. Oui, il y a aussi le fait qu'il a passé le fleuve et tout ça, c'est très joli. Mais d'abord, c'est un hébreu. D'accord ? Donc, pour aller voir Pharaon et lui dévoiler le dévoilement divin, il faut un hébreu. Oui ?
Éver, pardon. Éver, c'est le fils de Shem.
Petit-fils. Même si, pour être exact, arrière-petit-fils.
Oui. Avant d'avoir cette rencontre avec
oui.
Dieu,
eh ben.
Est-ce qu'il priait Dieu, il parlait.
Je ne sais pas, il faut aller lui demander.
Il avait un contact avec Dieu. L'Oyodéa.
Il s'entraînait, en tout cas, à ce qu'on a, à ce que la Torah a appelé Ara Elohim. C'est-à-dire qu'il est évident que la notion du divin était quelque chose qui était central chez lui. C'est ça qu'il a été apprendre chez Yitro. Maintenant, comment était le dévoilement, je ne peux pas te dire. Je ne sais pas. Ok ? Donc, pour aller voir Pharaon, il nous faut un hébreu, oui ?
Comment tu expliques que pendant 210 ans, ou autour de 210 ans, Hachem est resté muet ?
Comment tu expliques que ça fait 2500 ans qu'il est muet ? Non. Ani l'homme maskim. C'est-à-dire quoi ? Tous les jours, si on regardait bien, on regarde très bien, et on voit que Dieu, il a créé un monde extraordinaire, et on est reconnaissant de tout ce qu'il nous a donné, de tout ce qu'il ferait au quotidien. Et comme on a étudié la tradition prophétique, on sait que tout ce qu'il y a autour de nous vient de lui, mais non, on ne peut pas le rencontrer au quotidien parce qu'il a décidé de ne pas nous parler. Et ça fait 2400 ans que ça dure. Donc là, tu me demandes comment ça se fait que pendant 210 ans, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Peut-être qu'on ne méritait pas qu'il parle.
Peut-être qu'on n'écoute pas des fois. Non,
Rabotai. Non, j'entends ce que tu veux dire. C'est plutôt la même chose. Tu fais référence à des signaux énormes comme ça que Dieu nous enverrait et que des fois, on ne les regarde pas. Mais tous ces signaux, et je suis tout à fait conscient qu'il y en a, hein, on a tous... Alors, à notre petit niveau, on a tous peut-être déjà vécu ce genre de choses. On a l'impression vraiment que c'est pour moi, ça c'est pour moi, machin. Et même de manière générale, de manière nationale, mondiale, des fois, il y a des choses qui sont, waouh, incroyables. Mais il n'empêche que ça reste quand même uniquement des allusions. Ça n'est pas Dieu qui parle. C'est-à-dire que les signaux dont tu parles, ils sont très importants, ils nous aident à nous reconnecter, ce que tu veux, mais c'est pas ça la névoie. C'est-à-dire quand Dieu, il parle, Dieu, il parle. La vérité, je ne peux pas t'expliquer ce que ça fait, parce que je ne l'ai pas vécu. Mais ce n'est pas ça, c'est autre chose. C'est pour ça que Manitou, il disait, si tu veux savoir ce que c'est que la prophétie, sache qu'il n'y a pas ça aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce que tu as dans ce monde, c'est l'osé. Donc quand Dieu y parle, Dieu y parle.
On n'avait pas dit que quand vous lui apprendrez...
Ça commence. Là, on est en train de préparer le territoire moral, mental, concret, pour que Dieu se dévoile à nous. Parce que oui, vous inquiétez pas, il va se redévoiler. C'est prévu. C'est-à-dire ? Donc, à la réponse à la question pourquoi il n'a pas parlé pendant 210 ans, je ne sais pas. Le fait est qu'il n'a pas parlé depuis maintenant 2400 ans. Peut-être qu'à l'époque, et peut-être qu'aujourd'hui aussi, on ne méritait pas encore qu'il nous parle. C'est-à-dire, ce n'est pas stam que Dieu doit parler à l'homme. Il faut une certaine élévation morale. Peut-être qu'on ne méritait pas à l'époque. Ok ? Kitsour, donc pour aller parler à Pharaon, il faut un hébreu. Seulement, pour guider le peuple juif hors d'Égypte, il faut un égyptien. Slash, un mec qui connaît le leadership. Barour. Et où est-ce qu'on apprend le leadership à l'époque en Égypte ? Où est-ce qu'on apprend le leadership en Égypte ? Chez Pharaon. Et donc, on avait terminé la semaine dernière en posant cette question par rapport au verset Yudbet. Enfin, Yomer, qui est Yé non, je dis n'importe quoi. Voilà, Slira. Non, mais qu'est-ce que tu... Pourquoi tu m'as dit truc ?
On était arrêté après Yomer, on était arrêté au...
Yomer, Moshe, 12
ans. Oui, non, c'est ça, voilà, 12, tu m'as dit 13. Autant pour moi. Excuse-moi, autant pour moi. Alors, prenons le verset Yudalef. Va Yomer, Moshe, El Elohim, Mi Anochi. C'est-à-dire, Moshe demande, mais qui je suis, moi, pour faire ça ? Et on avait terminé en disant, ben voilà, maintenant on a compris les deux premiers chapitres de Shemot, c'est pour nous expliquer qu'il est l'homme de la situation parce qu'il est et hébreu et égyptien. Ok ? Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu va lui expliquer. Alors, allons-y. Va yomer ki ehye imach. Ma, qui est Iye, Imach. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est le nom de Dieu? Ou je serai avec toi? Oui, mais là, dans le contexte de la phrase, est-ce que c'est je serai avec toi ou le truc qui s'appelle Iye est avec toi? C'est pas clair. Ici, non, Iye c'est un futur, c'est sûr. Mais est-ce que c'est un des noms de Dieu? Ou est-ce qu'ici c'est je serai? Alors ici c'est je serai. C'est ça, ça c'est trompeur parce que dans quelques versets, il va dire que c'est ça son nom. C'est-à-dire, mais là pour l'instant c'est, en gros, t'inquiète pas. Iye Imach. La notion de Imcha ou Imach, Shelach ou Shelcha, dans le Tanakh, c'est pas comme en ivrite moderne où c'est masculin ou féminin. Dans le Tanakh, c'est oui, mais de manière extrêmement large. C'est-à-dire que dans le Tanakh, Imcha, c'est quand tu es actif, Imach, c'est quand tu es passif. Ok? Donc, Eye, Vayomer, ki Eye Imach, Vezelecha ot. כי אנוכי שלרתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. C'est-à-dire, comment tu sais que je vais être avec toi? Bah parce que vous servirez Dieu à l'ahar azé. Donc ça veut dire que quand est-ce qu'il va pouvoir savoir que ça a marché la sortie d'Égypte? Juste quand ils vont arriver au Sinaï. C'est-à-dire, s'ils sont arrivés au Sinaï, alors la sortie d'Égypte peut être considérée comme la sortie d'Égypte. Ok? Chev lama. Lama, mazé khashuv. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce qu'on peut dire que la sortie d'Égypte a marché si on est arrivé au Mont Sinaï?
Quand on pense à tout ce qu'il va falloir pour amener tout un peuple, toute une nation
au Sinaï. Oui, mais à ce moment-là, tu n'as pas besoin de parler du Arsinaï. Tu peux me dire, jusqu'à ce que vous arriviez à Baal Tsefon. Pourquoi est-ce que c'est la longitude et la latitude qui est donnée? C'est quand vous serez là. C'est le lieu où il y aura la rencontre. Bidouk. Alors, nous, on ne le sait pas encore, à ce moment-là du texte. Mais comme on a un peu triché, on sait que c'est de la même façon que c'est le lieu de la rencontre entre Moshe et Dieu, ce sera le lieu de la rencontre entre Am Israël et Dieu. Ok? Ok. Vayomer Moshe el Elohim. Ine anochi ba'el bene Israël. Ve amarti lahem Elohe avotechem shlachani alechem. Ve amrouli ma shemo. Ma omar alechem. Ma omar alehem. C'est ok, bon, très bien. Je vais aller voir les bene Israël. Oui, bien sûr. Et je vais leur dire, le Dieu de vos pères m'a envoyé chez vous. Ils vont me demander quel est son nom. Ah, pourquoi est-ce qu'il ne s'inscrit pas dedans? Parce qu'il ne peut pas mentir à personne. Personne ne considère Moshe comme faisant partie du peuple juif, mamash. Pourquoi? Parce que concrètement, combien de temps il a fait partie du Ham Israël? 24 heures. L'homachou. C'est-à-dire? Nachon, c'est le fils d'Amram, mais il n'a pas grandi chez eux. Tout le monde le connaît comme étant le prince d'Égypte. Caché? Donc il ne peut pas dire ça. D'autant plus qu'il y a un autre problème. Lui, il n'a pas besoin d'être sorti d'esclavage. Donc il ne peut pas s'inscrire dedans. Vebehemet Nachon, c'est l'une des raisons pour laquelle Moshe ne rentre pas en Israël. Lama, parce que dans la promesse qui a été faite à Abraham, eh bien, le peuple d'Israël qui va hériter de la terre d'Israël doit passer par deux étapes qui s'appellent Va'avadou. Va'avadou, c'est grave, ve'innu otam arba ma'otchana. C'est-à-dire que la descendance d'Abraham doit être en esclavage, en servitude, et également en souffrance. Ok? Avdout ve'innui. Le problème, c'est que, donc c'est les deux étapes par lesquelles tu passes pour, au final, hériter de la terre d'Israël. Am Israël, il a été esclave en Égypte, et il a souffert en Égypte. Donc il a hérité de la terre d'Israël. Lévi, la tribu de Lévi, elle a été esclave en Égypte, mais elle n'a pas souffert, parce qu'elle ne travaillait pas en Égypte. Donc, Nichnesu la Haaretz, mais ils n'ont pas hérité de territoire, mamash. Moshe, Gam lo avdou, gam lo inou. Ou là, il y a guerre. Il y a marqué dans la Haftacha de Avraham, il y a doa teda qui guerre yézaracha. Gerout, lo aya, vegam inou y veavdout, lo ayou. Ok, donc Moshe, il n'est pas rentré du tout en Israël. Donc tout ça pour dire qu'il ne peut pas se mettre avec eux, mamash. Mais ce qui nous importe ici, c'est que Moshe comprend très bien ce que c'est que les Hébreux. Et il dit, ce qui va intéresser les Juifs, c'est ton nom. Parce que les Hébreux sont les Bnei Ever et sont les descendants de Shem. C'est-à-dire que eux, leur idéal, c'est de savoir le nom des choses. Parce qu'on avait expliqué au début du livre, c'est quoi le nom? L'objectif. Ok? Donc, les Hébreux, ils vont pas me demander, ah ouais, alors Dieu qui nous fasse des miracles. C'est quoi son nom? Comme si tu me disais, c'était le code. Le code d'entrée dans la soirée. C'est quoi son nom? Non, Asbemet, c'est quoi son nom? Hein?
Que signifie-t-il le nom? Est-ce que c'est un projet?
On a déjà expliqué ça. On a répondu à ça. Au tout début du livre de Shemot, on a dit Shem, ça veut dire objectif. Au nom de ça. Ok? Le Shem, c'est l'objectif. Donc, c'est quoi le nom? Alors, Iné. Vayomer Elohim el Moshe, Eheye Asher Eheye. C'est quoi le nom de Dieu? Eheye Asher Eheye. Je serai celui que je serai. C'est son nom. Non, regarde ce que dit Rashi. Regarde ce que ça veut dire Eheye Asher Eheye. Iné. Nous dit Rashi. Eye imam betzara zot, asher eye imam beshiebut shara malchuyot. C'est-à-dire, dis-leur que de la même façon que j'étais avec eux pendant l'exil de l'Égypte, je serai avec eux également dans les autres exils qui vont arriver. Pour nous qui disons ça, c'est d'air, ça baba. Mais t'imagines, tu viens sortir les bénis Israël d'Égypte en leur disant oh, t'inquiète pas, hein, c'est que le début. Hein. Mais t'inquiète pas, Dieu il sera avec toi aussi. Caché. Donc, Rashi continue. En fait, Rashi, là, il cite le Midrash. C'est pas, ça vient pas de Rashi. Il dit, Amar lefanav. C'est-à-dire, Moshe, il a dit à Dieu. Ribono shel olam, ma ani maskir lahem tzara acheret. Dayam betzara zo. Pourquoi tu me demandes de déjà leur parler d'un autre problème qui va arriver? Ils ont pas assez avec leur problème là maintenant? Amar lo, yafe amarta. Très bien. T'as bien compris. Quoi la kavod Moshe? Donc, il a fait à Marta, Kotomar, et là, c'est la suite des versets qu'on va aller voir plus tard, qui nous dit que finalement, il va le dire, c'est quoi le nom? Ben, regardez. Vamar Kotomar livene Israël, Eheye shelachani alechem. C'est plus Eheye, Asher Eheye, c'est juste Eheye. D'accord? C'est-à-dire que c'était un test pour Moshe, pour voir est-ce que tu as bien compris à qui tu vas t'adresser. Donc très bien, tu as très bien compris. Donc Behemet, tu vas leur dire « Eheye shelachani alechem ». Moi, j'ai une question. Pourquoi, d'après le judaïsme, alors on sait tous qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu en vain. Parce que là, pas de débat. Seulement quand on étudie la Torah, ou quand on lit la Torah, ou quand on prie, c'est pas en vain. C'est-à-dire, on est tous d'accord là-dessus. Donc, quand on fait un shiur Torah et qu'on veut expliquer quelle est la différence, la différence entre les différents dévoilements en fonction des noms divins, bah, tu peux les citer. Par exemple, si j'ai envie de t'expliquer que le dévoilement de Dieu qui passe par le nom Elohim, c'est le dévoilement par la nature, parce que la gematria du mot Elohim, ça veut dire c'est Hateva, la nature, j'ai pas transgressé quoi que ce soit. Pareil, si je veux t'expliquer qu'est-ce que c'est Tsevahot, alors là aussi, Tsevahot, j'ai le droit de le dire pour t'expliquer que Dieu, il passe également son dévoilement par la notion de puissance politique. Pareil, si je veux te dire qu'est-ce que c'est le dévoilement de Dieu par celui qui donne la fécondité, eh bien, c'est Shaddai. Donc, encore une fois, on dit des noms de Dieu pour les expliquer. Qu'est-ce que c'est le dévoilement de Dieu qui montre la domination de Dieu sur le monde? Ça s'appelle Aleph Dalet Nun Yud Adonai. Et pourtant, quand on va dans la Tfila, dans la Torah, dans le Limoud, quand on va arriver aux lettres du tétragramme, Yud, ensuite Hey, ensuite Vav, ensuite Hey, on ne dit pas. On ne dit pas. On dit Yudke, Vavke, ou alors on dit Hachem. Et quand on va prier ou qu'on va dire dans la Torah, et qu'on va arriver à ce verset-là, on va dire Adonai, au lieu de dire Yudke, Vavke. Lama. Alors nous dit la tradition juive, parce que c'est un nom qui est tellement élevé qu'il est réservé pour le Beth Amikdash. Et au Beth Amikdash, effectivement, le Kohen Gadol, quand il disait le Shem HaMefourash, donc Yudke Vavke, mais cette fois bien dit, avec les voyelles, comme il faut, à ce moment-là, tout le peuple se prosternait et disait Barur Shem Kevod Malchuto Leolam Vahe. Oui ?
Est-ce qu'on a le droit de le modifier ?
C'est-à-dire ?
Quand on dit Yudke, c'est une modification.
C'est-à-dire que j'ai le droit uniquement pour ce nom-là. Parce que la halakha m'a dit que tu n'as pas le droit de le dire.
D'accord.
Donc en fait, je ne modifie pas, j'invente un truc. C'est-à-dire, je sais que tu sais de quoi je parle, c'est une espèce de compromis entre nous. C'est-à-dire, personne ne pense que Yudke Vavke, c'est un des noms de Dieu. C'est un consensus comme quoi, vu qu'on ne peut pas le dire, on dit autre chose, on dit n'importe quoi. Je pourrais te dire Chihuahua.
C'est comme si on intervenait pour modifier...
Oui, mais encore une fois... C'est, si tu veux, c'est accepté par moi et toi que c'est stam un mot. J'utilise stam un mot pour dire que je ne peux pas dire l'autre. Par contre, là où tu as raison, c'est qu'on n'a absolument pas le droit de dire ce que je pense être un nom de Dieu, mais modifier parce que je veux être plus religieux que les religieux. Par exemple, je n'ai pas le droit de dire stam kacha Elohim. Parce que là, j'ai pas voulu dire son nom, mais j'étais dans un endroit où je pouvais, où c'était en train d'étudier la Torah ou autre chose, donc. Ou alors Adoshem. On n'a pas le droit de dire Adoshem. Ou tu dis Hachem, ça c'est quand tu es en mode parvé. Si tu es en mode Torah, tu dis le nom qu'il y a à dire. Et si tu n'as pas à le dire, tu ne le dis pas. Oui, c'est absurde. C'est absurde. C'est-à-dire, si tu es en train de stam avoir une conversation avec tes amis et tu dis, tu veux dire en hébreu que ouais, Dieu il est génial, alors effectivement, tu ne vas pas citer un des noms de Dieu. Tu vas dire Baruch Hashem, Hashem Gadol, parce que c'est le nom.
Le nom,
c'est abstrait. Akadosh Baruch Hu. Ok ? Maintenant, si tu es en train d'enseigner et qu'il y a marqué Aleph Dalet Nun Yud, ne change pas. C'est-à-dire, par contre, si tu es en train de tourner un film et que tu veux représenter le kiddush, alors là, tu es obligé de changer. Ok ?
Donc... Et la différence entre tous les autres noms et le nom...
Ah ben voilà, la différence, c'est que Yud Kevavke, c'est trop fort pour pouvoir être utilisé à l'extérieur du Beth Amikdash.
C'est-à-dire, ça représente quoi ?
Ça représente Avaya. Avar, Ove, Veiye... L'avant, le pendant, l'après, c'est-à-dire que ça dépasse complètement la dimension de notre monde. C'est le créateur. C'est ce qui nous dépasse complètement. Donc dans le Beth Amikdash, le Kohen Gadol, ok, mais sinon, non. Alors pourquoi je vous dis ça ?
Pourquoi il ne serait pas caché ?
Pourquoi on le dit ça ?
Pourquoi il est dévoilé ? Parce que tout le monde le connaît.
D'accord.
Pourquoi il ne serait pas caché ?
Regarde, il y a une très bonne chaîne Facebook à laquelle je te conseille de t'abonner qui s'appelle Chauffard. Je ne sais pas si tu connais. Un travail extraordinaire qui est fait par le Rav Gabriel Lévy, mon grand ami d'ailleurs. Je viens de tourner des vidéos pour Chauffard. Mais on a déjà plein de vidéos du Rav Bochko, du Rav Cherki, du Rav Kling, et plein aussi de vidéos qui sont traduites en français, machin, de personnages incroyables, mais qui font un très beau travail. Et la dernière vidéo là, qu'ils ont postée, c'est le Rav Cherki qui explique qu'est-ce que ça fait d'avoir le Beth Amikdash. Je sais que ce n'est pas ta question, mais tu vas comprendre tout de suite. Il dit, la première phrase qu'il dit, c'est « Le Beth Amikdash, c'est l'inverse de l'acropole de Athènes. » C'est-à-dire quoi ? À Athènes, dans la Grèce classique, eh bien, il y avait l'acropole. C'était là où le peuple se réunissait pour discuter de tout ce qui allait se passer dans la cité. C'est-à-dire qu'il y avait un endroit où, au centre de la ville, où les gens venaient. Le Beth Amikdash, c'est un endroit qui est au centre de la ville, où les gens n'ont pas le droit de rentrer. C'est-à-dire qu'il est au centre, tout le monde sait qu'il est là, Avalasur Likanes, Lama, parce qu'il y a déjà quelqu'un. Zeh Kadosh Baruch. Donc, pour répondre à ta question, pourquoi ne pas le cacher? Au contraire, il faut qu'on sache qu'il est là, mais qu'on sache quelle est la grandeur de ce dévoilement-là, et que donc on ne peut pas le dire. S'il avait été caché, tu n'aurais même pas su qu'il y avait une grandeur de dévoilement. Oui, mais s'il était caché, tu n'aurais pas su que ça, c'est le dévoilement. Alors que là, tu le sais. Alors, je vous dis tout ça pour arriver à un problème. Parce que les Mekoubalim nous enseignent que plus la valeur numérique du nom de Dieu est grand, moins son dévoilement est grand. C'est plus la valeur numérique est petite et se rapproche de 1, de l'unité, plus c'est un dévoilement énorme. Donc ça marche, puisque Yudke Vavke, 26, c'est le plus bas qu'on connaisse. Ça colle. Sauf que, on vient de voir qu'il y avait un autre nom de Dieu, qui est Eheye. Et Eheye, c'est Aleph. He, Vav, He. Et ça fait plus 26.
Plus bas que 26.
Quoi, quand tu veux juste Ya. Ouais, Yud He. Ken? Nahon, tu as raison, 100%. Mais il n'est pas tellement utilisé. Nahon. Mais Eheye, c'est encore plus petit. Nahon. Zekol Kar Gadol. C'est-à-dire, c'est tellement grand que ben, ça ne nous, nous dérange pas. Parce que de toute façon, on sait qu'on n'y comprend rien. Donc, mais c'est intéressant, ça veut dire que Yud Kev Afke, on attend qu'un jour on comprenne. Et hier, on se dit, de toute façon, c'est tellement grand que laisse tomber. C'est encore plus grand. Mais c'est tellement grand que, bon, ben, de toute façon, c'est pas de ton niveau. C'est pas de ton domaine, ça sera pas de ton domaine. Laisse tomber. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà comment Dieu se dévoile au Béné Israël. Ah, comment est-ce qu'ils sont en, ils ont gardé? Parce que je te rappelle que les Béné Israël, même quand ils étaient en Égypte, ils ont gardé trois choses. Même quand ils étaient dans les 49e degré d'impureté de l'Égypte, machin, ils ont gardé leurs habits, leur langue et leur nom. Ils ont encore la massorette du Shem. Ils savent ce que ça veut dire. Donc il y a fort à parier qu'ils ont reçu ce dévoilement en massorette depuis Avraham. Ok? Donc, et je l'ai rien à dire. Od Elohim el Moshe, Kotomar el Bene Israël, Hashem, Yudke Vavke, c'est toi, Elohe Avotechem, Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Veloe Yaakov, Shelachani Alechem, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. Ah, donc en fait ça suffit pas de dire Eheye. Nahon, ça suffit pas, faut que tu leur dises également le chidouche. C'est que Behemet dans ce monde, je me dévoile pas en tant que Eheye, je me dévoile en tant que Yudke Vavke. Mais en fait pas vraiment. Parce que vous ne m'appellerez pas comme ça. Vous m'appellerez Aleph Dalet Nun Yud. Alors comment on arrange avec ça? Eh bien d'abord, sachez que je viens vous voir et je vous sauve parce que je suis le Dieu d'Abraham, d'Yitzhak et d'Yaakov. C'est-à-dire qu'on toujours on va les rattacher à la massorette qu'ils ont. C'est la première chose. La deuxième chose, on nous dit, dis-leur que je ne suis pas seulement le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, je suis Yudke Vavke. Et tu sais quoi? Tu leur diras que Zeshmi le'olam, mais c'est olam, c'est le monde, l'éternité. Mais c'est également, c'est-à-dire, caché. Elem, olam, c'est caché. Ne'elam, Zeshmi le'olam, Yudke Vavke. Veze zichri le dordor. C'est quoi? Mon souvenir dans chaque génération. C'est Adonai. Ok? C'est-à-dire qu'il y a marqué Yudke Vavke, mais dans chaque génération, nous on dit Adonai. C'est marqué Mefourash, ce verset-là, dans la première Mishnah du traité de Megillah, dans le Talmud. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah dans le traité de Megillah ? Première Mishnah de Megillah, de Purim. On nous dit Megillah nikret, beyud alef, beyud bet, beyud gimel, beyud dalet, petet vav, lo pachot, velo yoter. Voilà, c'est clair. Ron, c'est clair ? Non, non, pas clair. La Megillah, la Mishnah là-bas, elle dit quand est-ce qu'on a le droit de lire la Megillah Tester de Purim ? On te dit, tu peux le lire le 11 Adar, le 12 Adar, le 13 Adar, le 14 Adar, le 15 Adar, pas moins et pas plus. Ça, c'est le sens textuel de la Mishnah. Seulement, il y a un sens un tout petit peu plus profond. Mazé Megillah. Et là, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, on va utiliser ce nom maintenant de Dieu. Megillah, d'après les sages de la Kabbalah, c'est Magalia. Tu changes l'ordre des lettres. Dans le mot Megillah, tu as le mot Magal, c'est-à-dire les galotes dévoilées. Ya, Hachem. OK ? Donc toute la Megillah, c'est apprendre à dévoiler Dieu. Aval, comment tu peux dévoiler Dieu ? Beyud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel, Yud Dalet, Tetvav. J'invite les matheux. Combien ça fait 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15 ? 60. Qui va être en premier ? Combien ?
55.
Ok. On est d'accord qu'il y a déjà 50, puisque j'ai dit 11, 12, 13, 14 et 15, c'est bon. Donc on a mis les dizaines de côté, on est déjà à 50. 1 plus 2, ça fait 3. Plus 3, ça fait 6. Plus 4, ça fait 10. Ok, on est déjà donc arrivé à 60. Plus 5, 65. Comment de 60 t'es arrivé à 80 en faisant plus 5 ? Il y en a qui doivent vite retourner à l'école. 65. 65, c'est la gématria du mot Adonai. Donc, Megillah Nikret, comment est-ce que tu peux dévoiler Yah ? Be Adonai, lo pachot velo yoter. C'est combien pachot de 11 ? 10. Et c'est combien yoter de 15 ? 16. 10 et 16, ça fait ? Donc voilà. Donc on t'a dit, tu peux dévoiler Dieu, be alef dalet nun yud, pas beyutke vavke. Ok ? C'est ici la force du verset qui te dit, ze shmi leolam ve ze zichri le dor dor. Et donc une fois qu'on a dit ça, alors c'est parti ?
Là, le nom du lot, c'est
yutke vavke. Et tu sais comment Moshe va leur dire yutke vavke ? Il va leur dire Adonai.
C'est parce qu'il est écrit.
Bien sûr que c'est parce qu'il est écrit. Il y a marqué qu'il va leur dire Yudke Vavke. Seulement, il y a marqué aussi qu'il leur dira Zeshmi le Olam, Vezezichri le Dordor. Donc, il va leur montrer qu'il y a Yudke Vavke, il va leur dire voilà comment on le prononce. Mais t'inquiète pas, il va dire au Bnei Israël, quand on sera au Bet Amikdash, le Kohen Gadol, à Yom HaKippurim, quand ils rentrent dans le Kodesh HaKodashim, non, c'est pas vrai ce que je dis, c'est pas que. Enfin, si, le Kohen Gadol, il dit ça quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, Vaz, Ksha Kohanim, Vaam, Ayushomim. Et Hashem HaMefourash, Yotze Mipi Kohen Gadol, Ayu Koreim Umishtachavim Veomerim Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est une très belle chanson de Ishai Ribot, un petit de Marseille. Vous savez qu'une des plus grandes stars israéliennes, c'est un petit jeune de Marseille. Faut le savoir. Ishai Ribot, qui est aujourd'hui un des plus grands artistes israéliens, il a fait son alia, bon, je crois qu'il avait 6 ans quand il a fait son alia. Mais de Marseille. Il est français ?
Non.
Tu vas me citer maintenant plein d'artistes, mais d'accord.
Il y avait quelque chose de bon à Marseille.
T'as vu ?
On commence par les
Khazars. Kitsour, j'ai dit vivant. Mais Kitsour, non, il a mis en chanson cette Mishnah-là du Kohen Gadol à Yom HaKippurim. Très joli. En tout cas, là, les choses sont claires. Donc à ce moment-là, on ne s'arrête pas là, on ne s'arrête pas sur une si belle lancée. Donc il continue. Lech, va safta et zikne Israël, va marta aleem, השם אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, למור, פקוד פקדתי אתכם ואת עשוי לכם במצרים. Vous devez d'abord dire aux bénis Israël, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, hein? Et maintenant, il va rassembler les anciens et il va leur dire, je suis envoyé par celui qui réalise la promesse.
Parce que c'est
un code que eux, ils avaient reçu. Parce que la promesse, c'est eux qui la tiennent, c'est les anciens qui tiennent la promesse, Dafka. Donc, au peuple, il dit, Dieu m'a envoyé. Aux anciens, il dit, mais pourquoi il m'a envoyé? C'est pour réaliser la promesse qu'il a faite à Abraham, Yitzhak et Jacob. OK? ואמר עלי אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש. Et donc tu vas leur dire quoi? C'est quoi la promesse? C'est je vous sors d'Égypte pour vous amener en Eretz Israël. De quoi on n'a pas parlé à ce moment-là? De la Torah. נכון, c'est pas prévu au programme pour l'instant. ושמעו לקולך ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים ואמרתם אליו השם אלוהי העברים נקרא עלינו ואתה נלכה נע דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה להשם אלוהינו. Et pourquoi est-ce qu'on change d'appellation tout le temps? Là, il dit, OK, donc tu prendras tout le monde maintenant que tu les as convaincus, tu vas aller voir Pharaon. Et tu vas lui dire le Dieu des Hébreux. Mais comment en Égypte on appelle les Bnei Israël?
Les Hébreux?
Non. Qu'est-ce qu'il avait dit Pharaon au début de Shemot? Yesh Am, Bnei Israël. C'est-à-dire qu'on nous appelle les Bnei Israël. C'est vrai que la Torah, elle nous appelle les Hébreux, là-bas. Ish Ivri, enfin ça, Ish Mitzri. Mais ça, c'est le narrateur qui parle. C'est Dieu qui nous parle. Mais quand il, quand il ouvre la bouche des Égyptiens, on nous appelle les Bnei Israël. Donc pourquoi est-ce qu'ici, quand on va voir Pharaon, Dieu ne nous dit pas, dis-leur, le Dieu des Bnei Israël m'a envoyé.
Peut-être qu'à l'époque, Israël, ça avait une connotation géographique. Et Eretz
Haïfrim, les gens ne savent pas. Ah, toi, tu dis, on sait que. Dans tout l'empire, dans tout le monde antique, Eretz Ivrim, c'est Eretz Israël. Donc toi, tu viens dire, j'avais pas pensé à ça, je anichotem, j'accepte. C'est que tu dis, c'est pour expliquer à Pharaon que l'objectif va être donc de les sortir et de les amener dans le pays des Hébreux. Et donc je te dis, c'est les Hébreux. Bien fait. Alors moi, je voulais rester dans la ligne conductrice qu'on a commencé dans le shiur. Il veut expliquer à Pharaon, c'est quoi l'objectif? C'est de dévoiler la névoie. Et la névoie, elle est portée par les Hébreux. OK? Mais j'accepte totalement ce que tu as dit. Donc, OK. « Ve'ani yaddati ki lo yitad etchem melech mitzrayim la'aloch ve'lo beyad chazaka ve'shalachti et yadi ve'iketi et mitzrayim bechol nifleotai asher e'ese bekirbo ve'achareken yishlach etchem. » C'est-à-dire, je sais bien que Pharaon, il ne va pas accepter tout de suite. Lama. Lamalo. Pourquoi il n'accepterait pas? Parce qu'il ne connaît pas ce Dieu, Nachon Meod, et donc? Pourquoi il veut garder ses esclaves? Il est méchant? Qui te dit? Donc c'est pas forcément méchant.
C'est pas méchant, c'est la vie avant la révélation.
Enfin, il y aura des esclaves aussi après la révélation. Même chez nous, il y aura des esclaves. Le concept d'esclavage n'est pas aboli au moment où il y a Matan Torah. Donc, oui. Ah non, ne fais pas ça. On ne sait pas encore.
Oui, on ne sait encore pas, mais...
Ah.
C'est à côté.
Quoi? Attends, tu veux le verset après? Venatati et chen ha'am azé b'ene mitzrayim v'aya ki telechoun. Lo telechoun rekam. Lo, ce n'est pas le verset d'après. Alors non, tu triches. Quoi? Quoi, j'ai sauté? Où j'ai sauté? Ma.
J'en verrai, hein. HRSC, mais qui est beau. Et après, ça va, il m'en verra. Une fois qu'il a frappé.
Mais à aucun moment, on te dit qu'il lui a endurci son cœur.
Non, mais il a frappé. Là. Ça, il a parlé, il parle
lui, il parle d'endurcir son cœur.
Ah,
ça n'a rien à voir. Bon, donc je suis désolé de ne pas pouvoir parler de l'endurcissement du cœur de Pharaon pour l'instant. Mais, non, pas shoot.
Il craint que le peuple d'Israël s'allie avec des ennemis de Dieu.
Ça, on avait dit, c'était la crainte de Pharaon il y a longtemps. Est-ce que c'est la même crainte? Il y a fort à penser que non. Pourquoi? Parce que les Hyksos n'existent plus à ce moment-là. N'oublie pas qu'il y a presque 100 ans qui se sont passés. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Zépachout Meod, les Hébreux, c'est la force ouvrière de l'Égypte. Laisser partir les Hébreux, c'est l'effondrement économique de l'Égypte. Il n'y a aucune raison que Pharaon les laisse partir. Aucune raison. Et donc Dieu dit, je sais très bien qu'il ne va pas les laisser partir, c'est normal. Mais je vais lui montrer, et niflé au taille. Ken, veshalarti et yadi veiketi et mitzraim, bechol niflé au taille, asher eese bekirbo. Alors ça, il va falloir qu'on réponde à ça un peu plus tard. C'est quand on arrivera au diplé qu'on va répondre à ça. Ça, on va voir. Venatati etchen ha'am hazeh be'enei Mitzrayim ve'haya ki telechun lo telechu rekam. Al tidag, vous allez aussi faire un peu de business avant de partir. ושאלה אישה משכנתה מגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות ושמתם על בניכם ועל בנותיכם וניצלתם את מצרים. Avant de partir, vous inquiétez pas, je vous donnerai des compensations, des dédommagements.
Votre dû.
Ouais, votre dû de ça. Hier c'était Shabbat. Est-ce que ça s'est passé hier? Grande question. C'est possible que ce soit passé hier. Gros, non, vendredi, je crois. Massa ou Matan, gros débat avec mon fils. Alors, je reconstitualise l'histoire. Il a un jouet, une grosse Kalachnikov. Pour X raisons, il l'a mis sur le canapé. OK? Il n'était pas là, il était à la Ketana, machin. Sa sœur, ma fille et moi, on était dans la maison et à un moment donné, je lui ai dit assis-toi sur le canapé, je me rappelle plus exactement pourquoi, mais genre, je lui ai dit allez, assis-toi. Et elle s'est assise et crac, elle a cassé la crosse du truc. Donc, j'ai reconnu mes torts devant mon fils, elle a dit qui c'est qui a cassé mon. J'ai dit c'est nous, c'est-à-dire. Ma fille a dit oh, c'est toi qui m'as poussé. Moi, j'ai. Je lui ai dit ok, tu sais quoi, c'est Annie. Allez, mes cabelles. Je dis, ok, c'est sacré chalem. Ah, c'est vendredi. Et donc, je dis, ok, bah viens, on va aller dans le magasin. Bon, on était dans le magasin, il n'y avait pas. Donc, je lui ai dit, bon, écoute, l'honora. Il dit, non. Attache à Varta, attache à chalem. Je lui ai dit, ok, mbaaya, mais je mets une condition. Je lui ai dit, c'est quoi? Je lui ai dit, je vais à la maison dès qu'on rentre, je vais faire une liste de tous les trucs que toi, tu as cassé depuis que tu as à peu près 5 ans. Hein? Et ça veut dire, si celui qui casse, il paye.
Hein?
Et je lui ai dit, tu sais, c'est exactement ce qui s'est passé en 1979. En 1979, lorsqu'on était dans les discussions, enfin en 78 en vrai, lorsqu'on était dans les discussions pour parler de paix avec l'Égypte, il y a un des négociateurs égyptiens qui a émis comme idée que pour avoir le traité de paix, en plus du Sinaï et tout ça machin, il faut que les Juifs, que l'État d'Israël rembourse tout ce qu'ils ont volé à l'Égypte en partant. Parce que quand ils sont sortis d'Égypte, d'après votre Torah, il y a marqué que vous avez pris Kesef, Uzav ou Smalot. Donc il faut rembourser. Et à ce moment-là, les négociateurs israéliens, ils ont dit En ba'aya, mais à ce moment-là, vous devez nous dédommager des 210 ans d'esclavage. Ah, ils ont dit bon, c'est bon. Hein? Non, ils connaissent pas les Midrashim. Donc ils ont dit non, c'est bon. C'est bon, d'accord. On enlève ça. Bon, le kitzour, Osmanot. Alors, est-ce que Moshe, il est chaud maintenant? Est-ce que Moshe, il va pouvoir y aller? Eh bien, il est. Vayan Moshe, vayomer, vehen lo yaminuli. ולא ישמעו בקולי. ואמרו לא נראה אליך השם. משה דיד, ça marchera pas. Ils ne me croiront pas. Ils ne m'écouteront pas. Ils diront, c'est pas vrai, Dieu ne s'est pas dévoilé à toi. Non, là, ils doutent pas de la parole d'Hachem. Ils doutent de, des Bnei Israël. Lama, pourquoi ils pensent ça? Hein? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils pensent que ça ne suffira pas? Mais évidemment! Parce qu'ils vont me voir arriver. Moi, je parle pas yiddish. Moi, j'ai pas étudié au Beth Midrash. Moi, tous les rabounim, ils ont dit que le Mashiach, c'était un rabbin avec des grandes péotes. Et moi, je vais arriver avec mon accent égyptien, avec ma jupette, avec ma barbiche. C'est là. Aime le Yaminouli. Veloïch. Mazel Yaminouli. Tirer Tanira. Veloïchmeu Bekoli. Je ne parle pas leur langue. Vayomru lo nira elecha, elechat kamocha. Un pitom.
Hachem lui avait dit pourtant qu'ils écouteront ta voix.
Nahon ? Nahon ? Mais lui, il pense que venant de Vienne et étant d'une famille embourgeoisée et assimilée, et ayant une barbe certes, mais pas de kippa, et sa plante Théodore, eh bien il se dit que les Juifs ne vont pas accepter lorsqu'il va devenir le Mashiach. Fazma Koré, qu'est-ce que Dieu lui dit? Ah bon? Ah, c'est ça que tu penses? Eh bien, regardez ce qui se passe. Vayomer, Vayomer Rav Hashem, Maze Beyadecha, Vayomer Mate, Vayomer Ashlichehu Arza, Vayashlichehu Arza, Vayidenachash, Vayanaz, Moshe Mibanav, Vayomer Hashem El Moshe, Shelach Yadecha, Vayachos Biznavo, Vayishlach Yado, Vayachazek Bo, Vayilemate Bekapo, Leman Yaminu, Ki Nira Elecha Hashem, Eloi Avotam, Eloi Avraham, Eloi Yitzhak, Eloi Yaakov, je fais exprès de pas traduire, Vayomer Hashem, Lo Od Avena Yadecha Bechekecha, et là je traduis. Je fais exprès de ne pas parler du bâton maintenant, on y reviendra la prochaine fois. Mais je vais simplement terminer là-dessus, que le coup du bâton, ça ne suffit pas. Ça, c'est pour les Bnei Israël, le coup du bâton. Mais là, et on reviendra là-dessus évidemment, mais là, il dit à Moshe, « Mets ta main, il est, Vayomer Hashem, lo, Dieu il a dit à Moshe, « Od avena yadecha bechekecha, mets ta main dans ta chemise, » ויבא ידו בחיקו, ויציאה, והנה ידו מצורעת כשלג. כי בסמה, כשאתה לרוסור, אלה? לפרוס. טוב, je sais qu'on n'a pas fini d'étudier Shemot, donc on n'est pas censé savoir ce qu'il y a dans Vayikra. Mais comme j'ai entendu dire que vous alliez à la synagogue de temps en temps, peut-être que vous avez été pour la parasha de Tazria Metzora. D'après la tradition juive et les versets, quel est le truc qui a amené la tzaraat? Shonara. De tous les signes que Dieu pouvait donner à Moshe, il lui a donné Davka celui-là. Ma ze Omer, Omer anatsiv mivologin, Rabbeinu Naftali Tzvi Yehuda Berlin, dans son commentaire du livre de Shemot, il dit c'est la preuve que ici Moshe a dit du Lashon Hara sur le peuple juif. Que assour de venir dire que le peuple juif, il va pas croire que c'est la Geoula juste parce qu'elle ressemble pas à ce qu'elle pensait, à ce qu'il pensait qu'elle devait ressembler. Ta'amin be'am Israël. Am Israël, ils sont plus intelligents que toi et plus intelligents que les rabbins. Ils sauront très bien reconnaître la Géoula quand elle arrive, même si elle ne ressemble pas à un rabbin. Chazak ou Baruch.